Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Vous êtes sur France Culture et aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième volet de notre série de Matière à penser, cinéma et médecine. Le premier volet ayant été diffusé entre le 11 et le 15 novembre et je vous invite bien sûr à le podcaster. Comme d'habitude, nous prenons un film comme point de départ et l'élu, c'est Freaks, la monstrueuse parade, un film américain de Todd Browning sorti, tenez-vous bien, en 1932, mais tellement d'actualité, comme vous allez le voir. Et pour discuter de ce film, je reçois d'une part Florence Colombani, qui est critique de cinéma, et le professeur Jean-Louis Fischer, qui est embryologiste spécialisé dans la tératologie, et vous saurez tout sur ce mot et ce qu'il contient.
You laughed at them, shuddered at them, and yet, but for the accident of birth, you might be even as they are.
Voilà, vous venez d'entendre le chant où tous les monstres, entre guillemets, on verra bien pourquoi il y a des guillemets, de ce cirque, acceptent la venue dans leur groupe d'une nouvelle personne. Et donc c'est vraiment la base justement de l'altérité, c'est toute cette discussion. Je vais demander donc à Florence Colombani, qui est donc journaliste, réalisatrice, qui est passée par la Sorbonne, par Sciences Po, qui a collaboré au Monde, à France Culture, au Point, qui a réalisé un film qui s'appelle L'étrangère, passionnée de musique et du Chevalier à la Rose de Richard Strauss. Je vous invite à le voir. Elle a écrit un certain nombre de livres sur les hommes et les femmes de cinéma. Elia Kazan, Visconti, Polanski, Marlon Brando. Et donc c'est une passionnée de l'image. Et est-ce que vous êtes passionnée de Freaks ?
Oui, Freaks, c'est vraiment une merveille. Je pense qu'on ne peut pas ne pas être passionné de Freaks quand on le découvre. Ce qui est plus difficile, c'est de le voir. Parce que même si c'est un film célèbre, un peu légendaire dans l'histoire du cinéma, ce n'est pas forcément un film que les gens voient.
Il y a un mouvement de recul. Hein. On se dit, oh là là, les monstres, mais non, je ne peux pas aller voir ça.
Oui, on pense que ça va être trop dur à supporter.
D'ailleurs, juste une petite anecdote, c'est qu'en fait, il a été jugé comme choquant. Il a même été interdit. Et il a été réalisé en 1932. Et ce n'est que 30 ans plus tard qu'il va être en France en 62.
En fait, ce qui se passe, c'est que quand le film est fait à la MGM en 1932, comme tous les films de grands studios américains, il est projeté un public test. Et on doit enregistrer les réactions du public pour voir si ça a un destin commercial, s'il faut changer le montage. C'est une pratique totalement normale à l'époque. Or, quand les spectateurs de la projection test voient Freaks, ils sont absolument terrorisés, ils partent en courant de la salle, enfin ça se passe très mal. Et donc la réaction du studio, c'est de faire ce que fait toujours le studio dans ces cas-là, de remonter le film, donc en fait de le tronquer complètement. Donc la version qu'on connaît, qui dure une heure, est une version très différente de ce que voulait le cinéaste Todd Browning, puisque le film d'origine durait plus d'une heure et demie, et tout ce matériel-là a été perdu. Mais malgré tout, c'est ça qu'on appelle un film culte, c'est-à-dire qu'il y a eu une renaissance, une redécouverte de Freaks et une influence majeure de ce film sur le cinéma, y compris contemporain. Je pense que même un film comme Joker, qui est en salle en ce moment, porte la marque de l'influence de Freaks. Donc c'est vraiment un arbre généalogique très fourni qui part de ce film essentiel, qui en fait est au départ un mélodrame du monstrueux. Donc une histoire pathétique très touchante de ces créatures de cirque qui sont exhibées comme des curiosités et qui forment une sorte de société parallèle. L'intrusion d'une femme belle et normale, entre guillemets, qui en fait est d'une véritable monstruosité psychologique, mais on y reviendra, va bouleverser leur fonctionnement et c'est cette tragédie-là que raconte le film.
Alors la tragédie, c'est justement l'utilisation par cette femme de son charme vis-à-vis d'un nain. Il y a un petit couple de nains qui est vraiment adorable, mais et lui devient très amoureux d'elle et elle va l'utiliser parce qu'en fait il a hérité de beaucoup d'argent.
Voilà, elle s'appelle Cléopâtre et elle veut mettre la main sur le pactole, donc elle le séduit. C'est difficile parce qu'il a une sœur qui se méfie beaucoup d'elle. Il essaie de résister à l'intrusion dans leur vie, mais il n'y arrive pas, il tombe amoureux, il l'épouse. Et là, il y a cette cérémonie de mariage incroyable dans laquelle, en fait, on intronise cette Cléopâtre dans le groupe des Freaks.
Musique qu'on a entendue au début, là,
voilà,
êtes des nôtres, elle est des nôtres.
Et le repas de mariage a lieu dans l'arène du cirque, à même la terre battue du cirque. Et ensuite, dans une deuxième partie, cette épouse va empoisonner son nouveau mari. Et quand elle va être découverte, il va y avoir une rébellion de tous les Freaks par solidarité avec le membre des leurs qui a été attaqué. Et elle est châtiée d'une façon vraiment épouvantable. Je pense qu'on peut peut-être
on peut le dire.
Révéler la fin.
Oui, oui.
Mais donc elle est transformée en une sorte de femme canard. Enfin, elle n'est plus qu'un tronc attaché à des plumes et elle va devenir elle-même objet d'exhibition.
Voilà. Alors, il est certain que ça c'est une référence aussi au fait que à une certaine époque, on montrait, hein, c'était un spectacle qui était en France, le Cirque Barnum et d'autres, on montrait toutes les monstruosités, tout ce qui était comme ça, qui pouvait attirer, alors, d'une part. Deuxièmement, je ne sais pas comment ils ont fait pour faire jouer, hein, je veux dire, le nombre de gens qui sont quand même sérieusement atteints.
Oui.
Hein, je veux dire, par exemple, l'homme tronc, je veux dire, c'est un homme tronc, c'est quand même, c'est pas rien. On va revenir tout à l'heure avec Jean-Louis Fischer sur les monstruosités et les anomalies. Mais là, donc d'une part, il y a vraiment une panoplie de gens différents, hein, qui est quand même remarquable. Et puis surtout, ça pose la question, effectivement, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, de la différence entre le bien psychique et le bien, enfin, physique, quoi, l'apparence. C'est le thème vraiment du film.
Oui, il faut dire que Todd Browning lui-même avait l'expérience directe de tout ça, puisqu'il avait d'abord commencé sa carrière comme attraction de cirque. Alors, il n'était pas lui-même un freak, mais il faisait des numéros d'illusionnistes, dont le plus célèbre était qu'il restait enfermé dans un cercueil ventilé pendant 24 heures et faisait mine ensuite de ressusciter. Mais donc, il avait côtoyé des gens qui étaient comme ça exhibés, et lui-même avait subi un très grave accident de voiture qu'il avait laissé édenté et très affaibli, et donc je pense qu'il se sentait en tout cas très solidaire, et c'est la beauté du regard qu'il pose sur les personnages que d'être un regard fraternel et pas un regard de jugement ou d'épouvante. Cette part assez spéciale du réalisateur, enfin il y a une part biographique qui est assez étonnante. Et puis alors en effet il y a eu un casting et donc ils ont écrémé tous les cirques des États-Unis et ils en ont ramené les personnages les plus sidérants. Il y a des gens qui ont des sortes de têtes d'épingle, il y a en effet cet homme tronc, enfin il y a vraiment des phénomènes assez rares qui sont rassemblés, alors que dans les cirques de l'époque il n'y avait en général qu'un seul freak par cirque. Donc c'est un cirque imaginaire finalement que nous montre le film.
Mais Florence Colombani, vous parlez de Browning, de sa vie et tout ça, mais en plus c'est quelqu'un qui dans le cinéma s'est délecté quand même de films d'horreur, on va dire. Hein,
c'est un spécialiste du film d'horreur, c'est le réalisateur du fameux Dracula qui précède immédiatement ce film hein, de 1931 avec 31. Bela Lugosi. Ouais.
Et, Mort du vampire, Les poupées du diable, enfin bon, il a fait quand même un certain nombre... c'était la période hein, du cinéma qui... ce thème marchait, quoi.
Oui, il y avait un courant très gothique hein, dans le cinéma et qui, dont le studio Universal était le spécialiste, le film d'horreur, finalement, qui repose beaucoup sur la suggestion et sur, notamment, le thème de la monstruosité et de comment l'humanité... telle qu'elle se croit vertueuse, peut receler plus de monstruosité que les monstres. Ça, c'est vraiment toujours le motif récurrent de ces films.
C'est ça, parce que le fin fond de l'histoire, c'est que voilà, n'est pas monstre celui qui paraît l'être. Et la différence, je veux dire, ce qui est assez extraordinaire, parce que c'est pas un film d'horreur, hein, je veux dire. Enfin, il y a quelque chose, évidemment, au début, on est un peu surpris. Mais très vite, je veux dire, on s'habitue, je dirais, on retrouve le fondement humain quoi qu'il y a dans chaque être, aussi différent soit-il. Et c'est ce point-là qui, je trouve, est extraordinaire. Ça a été repris ensuite en théâtre, hein, je crois, la thématique à Avignon en 88. Et au cinéma aussi, ça n'a pas été repris en tant que tel.
Pas en tant que tel, il n'y a pas eu de remake à ma connaissance, mais en revanche, il y a une influence manifeste de ce film sur beaucoup de cinéastes, sur Georges Franju, Les yeux sans visage, sur Tim Burton, sur tout un courant du cinéma qui accorde son intérêt aux créatures différentes. Et en effet, c'est pas un film d'horreur, Freaks, mais c'est vraiment un mélodrame, c'est-à-dire un film du sentiment. Et je trouve que c'est sa grande force aussi, c'est qu'il continue à nous émouvoir et à nous toucher aujourd'hui. Et même la cruauté de ce qui est infligé au personnage de la méchante à la fin ne fait que rejouer ce que toute la société inflige aux freaks. Donc c'est pas un jugement sur leur comportement qui serait immoral, c'est plutôt l'idée que ils ne font que reproduire exactement ce qu'on leur fait subir.
Enfin voilà, on peut vraiment, je trouve, conseiller de voir ce film. Il tient vraiment la route, hein. Même s'il a été fait en 32, il est vraiment à voir. Et je trouve sur le fond et même sur la forme, hein, il a été bien conservé.
Oui,
même,
oui,
même, alors je savais pas qu'il y a eu quand même des rushs ou une partie importante, un tiers du film qui a été perdu.
Ouais, ouais. Et d'ailleurs, la carrière de Todd Browning a été brisée par ce film. Il a ensuite réalisé seulement deux ou trois autres films qui n'ont pas marché. Et ensuite, il a vécu comme un reclus pendant les 20 dernières années de sa vie. Ça a été un film où il avait mis énormément de lui-même et dont l'échec a été très douloureux, finalement.
Alors, le passage du cinéma, je dirais, à la médecine, je me tourne vers Jean-Louis Fischer, qui me fait le plaisir de venir avec nous aujourd'hui. Jean-Louis Fischer est un embryologiste, c'est un spécialiste donc de la tératologie, qui est donc l'étude scientifique des malformations congénitales. C'est un historien des sciences et c'est un passionné de représentation de l'embryon humain du XVIIe siècle à aujourd'hui. Enfin, voilà, il a plongé dans tout cela, sur cette réflexion. Il y a peu de gens. Il a participé, il a même mené un groupe de réflexion du Centre Alexandre de Coiré. Il a fait plusieurs livres, Les monstres, Histoire du corps et de ses défauts, publié en 91, la calipédie. Alors, qu'est-ce que c'est que la calipédie?
La calipédie, c'est l'art d'avoir de beaux enfants. C'est un terme qui apparaît dans le XVIIe siècle, où on cherchait des méthodes, des moyens pour les couples qui désiraient soit avoir un garçon ou une fille, si on pouvait considérer qu'une fille était mieux qu'un garçon était mieux qu'une fille, ou avoir un enfant parfait. Donc il y avait des médecins qui préconisaient certaines recettes, ça pouvait être des recettes alimentaires ou des recettes souvent des recettes de bonne santé, enfin de bien-être.
Mais il y avait aussi tout un tas de règles. Par exemple, fallait pas manger telle chose, voir telle chose, le fait de voir que pouvait avoir une influence sur l'enfant. Enfin, il y avait beaucoup de croyances.
Oui, alors ça, c'était tous les faits d'imagination de la femme enceinte sur le fœtus, qui n'est peut-être pas tout à fait disparu aujourd'hui.
Non. Ce que j'allais dire, c'est que cette volonté elle existe toujours.
Ça permettait d'expliquer un phénomène qu'on ne comprenait pas.
Mais c'est pas de l'eugénisme, hein.
C'est pas de l'eugénisme.
On est dans le naturel et dans la poésie.
Une femme qui avait une frayeur, par exemple.
Il fallait pas manger des fraises parce qu'il y allait avoir un petit.
Voilà. Mais alors ça, ce sont des histoires qui ont été mises de côté dès le XVIIIe siècle. Des gens comme Buffon, par exemple, ont beaucoup critiqué ce genre de.
Il y avait le début, justement. Il y a le début du rationalisme, c'est-à-dire de l'étude concrète.
Tout à fait.
Votre rôle, c'est d'analyser, justement, cette tératologie expérimentale.
Voilà. Ce qui est intéressant, quand vous parlez de Freaks, de ce film, justement, 1932, c'est un film qui est un peu charnière entre deux époques. C'est-à-dire, pour moi, il termine un peu cette époque de Barnum où on montre le monstre. C'est la définition même du monstre, en fin de compte, de le montrer. On montre son chemin, mais on montre le monstre. Et le monstre montre aussi, il peut montrer quelque part un danger à venir. C'est le rôle qu'on va appeler aussi dans la tératologie, qui est la science des monstres, teras, qui est le terme grec. Et il y a eu ce terme de tératoscopie, c'est-à-dire par le monstre, on peut prévenir, deviner un avenir.
Hein. Allez, je comprends pas bien. Ça veut dire quoi?
La naissance d'un monstre va avertir d'un danger. On a par exemple un monstre célèbre comme le monstre de Ravenne qui annonçait une bataille entre la France et l'Italie. Donc il y a comme ça des monstres qui apparaissent et ce sont des monstres qui avertissent d'un danger. Du reste, c'est intéressant parce que à ces époques lointaines, comme dans l'Antiquité, on peut dire jusque vers le XVIIe siècle, ce rôle du monstre avertisseur, on le retrouve tout à fait aujourd'hui. On l'a aujourd'hui, par exemple, dans le problème qui se pose sur la dispersion de produits chimiques ou les guerres, à Fallujah, par exemple, où l'on bombarde des populations avec des armes qui sont soi-disant de l'uranium appauvri, mais qui produisent des cancers, qui produisent des malformations chez le fœtus. Donc, on peut encore montrer le monstre pour avertir d'un danger qui est celui de la monstruosité de la guerre.
Vous voulez dire ces vaisseaux, les produits chimiques, et des anomalies, les produits distillés, enfin bon, voilà. On va y revenir d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup, effectivement, de cause à effet.
Voilà, tout à fait.
Donc, parce que la grande question qui est posée devant une. D'abord, c'est celui de la norme et de la normalité, et de la norme, mais c'est aussi d'essayer de comprendre pourquoi.
Oui. Si vous me permettez sur cette question justement de Frikes de l'aspect dans ces années 1930 de la naissance d'une science des monstres avec Étienne Veuf en particulier qui met en place une tératogénèse, il va faire des expérimentations pour expliquer vraiment le mécanisme embryologique des monstruosités qu'on n'avait pas fait tout à fait avant les embryologistes par exemple, pouvaient créer des malformations pour expliquer la normalité. Là, avec Étienne Wolff, dans ces années 30, il fabrique des monstruosités, c'est de l'embryon de poulet, hein, ou ça peut être de l'embryon d'amphibien, mais pour essayer de comprendre la genèse même de la monstruosité. Comprenant la genèse de la monstruosité, il pensait pouvoir quelque part éviter certaines monstruosités, ce qui n'a pas été tout à fait le cas. Mais on a pu comprendre... Par la suite, par exemple, à la suite d'Étienne Wolff, il y a eu Paul Ancel qui crée une nouvelle science qui est la chimiotératogénèse, toujours dans ces années, dans la fin de ces années 30, qui là avertissait justement des dangers des substances chimiques, parce que lui, il va faire des monstres par des substances chimiques, et là il va montrer justement les dangers de ces substances chimiques, alors que Wolff, lui, travaillait avec des rayons X, donc il détruisait plus exactement des tissus d'une façon très très spécifique. Et le terme de monstre, en fin de compte, parce qu'on parle de monstre, quand on parle de monstre et quand on voit Frikes, par exemple, qui peut être un point de départ, on a trois façons de regarder ce film. Il y a l'aspect de l'historien. Il y a l'aspect de l'historien, parce qu'il y a une histoire, bien entendu, il y a ces formes tératologiques qui sont dans ce film. Il y en a une qui est pas exacte, on pourrait en revenir, c'est l'hermaphrodite qui est mis par moitié, mais qu'on avait au XVIIe siècle, hein. C'était une image qui était assez courante au XVIIe siècle. Et alors il y a cet aspect historique.
C'est-à-dire qu'il pouvait pas montrer le sexe, les deux sexes éventuellement concomitants. Voilà, donc il l'a représenté avec une division noir et blanc du corps dans Frikes, dans le film.
C'était une image qui permettait mieux de comprendre la chose en fin de compte. Et puis il y a l'aspect sociétal, l'aspect sociétal du monstre. Le monstre, on va souvent parler de monstre, mais il y a le monstre tératologique, et il y a le monstre sociétal. C'est-à-dire, ça peut être le monstre, ça peut être le criminel. C'est un monstrueux. Cet homme est monstrueux, mais ça peut être une grande vedette de cinéma. On va dire, c'est un monstre qui crève l'écran. Donc, le monstre a cette signification négative, quelque part, et une signification positive. Et on a, c'est intéressant, parce que pendant très longtemps, nous-mêmes, moi, j'étais dans un laboratoire de tératologie expérimentale, on pratiquait de la science des monstres, on parlait de monstres, mais c'est un terme qui a été éliminé vers ces années 90. Ce terme a été effacé, on n'a plus parlé de monstres. Par exemple, on parlait de monstres doubles, ces jumeaux joints. qu'on appelle jumeaux joints. C'est Claire Fétéquet qui a lancé cette idée de ne plus appeler des monstres, ces jumeaux joints, des monstres doubles, dans la mesure où ils sont dans une anormalité quand ils sont joints, mais on peut chirurgicalement les séparer et leur donner une normalité.
C'est les frères et les sœurs siamois, voilà, hein, qu'on appelle comme ça.
Aujourd'hui, vous savez, il y a ces jeunes camerounaises qui sont venues et on les appelait, la presse les appelait les sœurs siamoises camerounaises, que l'on doit opérer normalement aujourd'hui.
Parce que effectivement, parmi les plus célèbres, c'est des frères siamois qui étaient originaires du Siam.
Voilà, exactement.
Et qu'on a, mais enfin, ça existait bien avant. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Mais votre passion, Jean-Louis Fischer, pour cette embryologie, cette genèse, vous avez été marqué par plusieurs grands personnages comme Jean Rostand, Mirko Grmec, et puis Émile Papiernik. Hein, c'est un peu vous aimez bien.
Alors, avec Rostand, oui, c'est un personnage que j'ai connu assez tôt. Et Rostand a fait une découverte dont on ne connaît pas encore aujourd'hui la cause. C'est chez la grenouille, hein, puisqu'il travaillait sur la grenouille au départ, il travaillait sur des problèmes de parthénogenèse, de fécondation chez la grenouille et le crapaud. Et un jour, il découvre une malformation chez la grenouille verte, où au lieu d'avoir 5 orteils, où il y avait des grenouilles qui avaient jusqu'à 15 orteils, c'était énorme, des pattes supplémentaires. Et là, on ne sait pas reproduire ça, et on n'a pas aujourd'hui la cause de cette malformation. C'est-à-dire, dans la nature, il existe quelque part une malformation, une monstruosité, on peut dire, dont on ignore l'origine.
Alors, voilà, ça c'est dans la nature animale. Bien sûr, on est très préoccupé dans la médecine d'aujourd'hui par la recherche de malformations, parfois avec des excès. Qu'est-ce que c'est qu'une malformation? Quelle est la limite entre une malformation grave ou pas grave? C'est ce qui se passe pour toute femme enceinte aujourd'hui. On va y revenir dans un instant, après un peu de musique qui provient de ce film dont nous discutons avec Florence Colombani, qui est Freaks.
Matière à penser, René Friedman.
Alors vous venez d'écouter la musique de Freaks, ce film qui date de 1932. Si le film lui-même, l'image et bien sûr le thème est toujours d'actualité, la musique, vous l'avez entendue, elle est un peu tremblotante, hein, elle date un peu. Mais bon, voilà, ça fait partie de l'ensemble de cette œuvre réalisée en 1932 et qui, je dirais, nous invite à la réflexion. Ce n'est pas un film d'horreur, nous dit Florence Colombani ici présente, et ça permet à Jean-Louis Fischer de faire état de sa passion d'une vie qui est celle de l'étude de l'embryogenèse et de pourquoi, enfin pas pourquoi, mais comment se constituent des malformations, et puis la réflexion que nous avons tous, les uns les autres, qu'est-ce que c'est que la norme, comment accepter la différence. C'est une école d'ouverture et de tolérance, hein, je trouve. Ce film renvoie à accepter l'humain dans toutes ses variations, et c'est une leçon. Jean-Louis Fischer.
C'est tout le problème de la société face au handicap, hein, en fin de compte, qui se présente là.
Tout à fait.
On voit bien que ce qu'on appelle les monstres, ce n'est pas toujours ceux que l'on pense.
Florence Colombani.
Oui, je voulais revenir sur ce que disait Jean-Louis Fischer sur l'hermaphrodite. En effet, c'est un personnage très intéressant et c'est évidemment pour nous, spectateurs d'aujourd'hui, peut-être le monstre le moins à sa place, dans le sens où la vision qu'on a du genre et de ce type même de personnage a complètement changé. Et donc, ce qui est intéressant avec Freaks, c'est que c'est un film qui est réalisé avant la mise en place du code Hays, qui est le code de censure du cinéma américain, qui créera par la suite un cinéma extrêmement puritain, où par exemple, même les couples mariés dorment dans des lits séparés et non pas dans un seul lit. Enfin, alors quand on voit ce film, quand on est habitué au film de la fin des années 30 et qu'on voit Freaks, on est très étonné par le nombre de sous-entendus sexuels. Alors à la fois entre les personnages normaux, que sont par exemple Cléopâtre et Hercule, qui ont une liaison et qui ont tout un jeu entre eux où on comprend bien qu'ils ont une vie érotique assez torride, et en même temps entre les Freaks eux-mêmes. Et là je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est aussi une façon qu'a Todd Browning de ramener ces monstres dans la communauté des hommes, puisqu'ils ne sont pas du tout exclus de la sphère sexuelle, alors même que, je pense, dans l'imaginaire collectif, ils le sont. Et donc, il y a là quelque chose qui se joue qui est assez, assez fort et assez saisissant.
Alors, dans les malformations, hein, je dirais, dans les monstruosités, on va dire, de la nature, il y en a qui sont létales, c'est-à-dire que l'enfant ne survit pas. Et parmi celles-ci, il y en a beaucoup qui sont mythologiques, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve dans la mythologie grecque, comme par exemple les cyclopes. Alors, les cyclopes, c'est effectivement ce qu'on appelle en médecine l'holoprosencéphalie, c'est un seul encéphale qui n'est pas dissocié, et puis un seul œil qui se souvent peut-être... Enfin, c'est un peu schématique parce qu'il y a plein de variations et souvent il y a des lésions qui sont associées. Alors Buffon, dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Louis Fischer, fait la description, hein, je dirais, d'un cyclope. On retrouve, à partir de ces malformations, beaucoup de choses dans la mythologie. Puisqu'il y a les géants, cyclopes, dans la mythologie. Donc on peut penser qu'à partir d'une réalité humaine, donc de ce type de malformation, l'esprit humain a inventé tout un tas de mythologies. Qu'en pensez-vous ?
Oui, bien sûr, c'est le monstre létal que l'on fait vivre, et ça on fait vivre des monstres qui ne sont pas viables, comme la cyclopie, l'anencéphalie,
l'absence de cerveau,
de développement
du cœur, ce qu'on appelle le fœtus incardiaque.
Et on fait bien sûr de ces malformations, on en fait des personnages qui ont été souvent uniques. Du reste, assez, on se demande comment ils peuvent se reproduire, parce qu'ils sont souvent tout seuls, sauf à certaines époques où on a pensé qu'il pouvait exister des races monstrueuses. Il y avait des territoires où il pouvait y avoir des populations de cyclopes, des populations de... qu'on appelait, c'était des populations qui avaient une seule jambe avec un très grand pied.
Mais c'est les blémis, qui sont des
siapodes. Alors les blémis, c'était une population qui n'avait pas de tête, donc c'était quelque part des acéphales complets, mais qui avait la tête sur la poitrine.
C'était une tribu nubienne du sud de l'Égypte.
Alors,
qui n'était pas comme ça.
Oui, non, mais non,
qu'on imaginait comme
pas
ça.
Pas du tout,
ça.
Qu'on imaginait qui étaient des guerriers, du reste, qui combattaient les armées romaines. Donc quelque part, il y avait une légende de ces blémis, d'une existence de ces blémis, et on leur a donné cette faculté de pouvoir vivre dans ces conditions, d'être sans tête, mais d'avoir une tête au milieu du thorax, exactement.
Et alors, les grilles, alors, autre nom bizarre et autre situation bizarre, des fêtures grotesques, monstrueuses, par exemple, qu'on retrouve dans les tableaux de Jérôme Bosch, hein, qui sont tout un tas de monstruosités comme ça du Moyen-Âge, qui sont assez extraordinaires, au point de vue iconographique, bien entendu. Et puis, voilà, on a mi-humain, mi-animal,
le mi-humain et mi-animal, alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on pourrait penser aux hybrides. Hein, les cibles,
aux chimères. Voilà, parce qu'actuellement, il y a quand chimères, même les Anglais ont l'autorisation de faire des chimères.
Voilà, ce qu'on appelle des cibrides. En fait, on prend un cytoplasme animal, on place un noyau humain et on obtient donc
Un développement qui va pas qui est stoppé, mais quand même
qui pourrait donner ce qu'on appelle justement ces hybrides qui seraient des hommes animaux comme ils étaient pouvaient être imaginés dans l'Antiquité ou au Moyen Âge.
Ah ben dans l'Antiquité c'est un festival quand même.
Ah ben tout à fait, oui. La possibilité de mélange de semences qui permettaient
des monstres à plusieurs têtes.
Toute imagination pouvait s'exprimer et s'est exprimée.
Alors parmi les anomalies qu'on peut voir dans le développement, alors il y en a qui se traduisent pas par des malformations visibles. D'ailleurs, on va reparler tout à l'heure peut-être un peu de des ambiguïtés sexuelles qui se voient pas forcément. Hein. Je veux dire, il y a une différence qui peut exister entre le sexe génétique et le sexe physique. Mais par contre, il y a quand même des situations qui sont. Je pense à l'homme tronc là, que moi qui m'a vraiment frappé parce que quand même, ça fait quelque chose. Et là, j'ai vu que, du coup, j'ai regardé un peu d'autres documents. Il y a un enfant brésilien qui est né sans bras, sans jambes, qui s'appelle Gab Adams, qui a été adopté par une famille croyante américaine avec ses 13 enfants. Et il fait de la breakdance sur sa tête, sur son épaule, tout ça. J'ai vu la vidéo. Et ça renvoie quand même à une bonne interrogation sur qu'est-ce que c'est que l'autre, la différence et le handicap, hein, je dirais. C'est vraiment un peu fort. La sirénomélie, alors c'est des enfants qui naissent avec une espèce de fusion. Des jambes, ouais. Et du coup ça évoque, surtout si c'est une femme, ça évoque des sirènes.
Qui ne sont pas viables, oui, généralement il n'y a pas de reins, alors il y a au moins deux formes, des sirènes, les deux ébauches des membres, des jambes se sont soudées, et il peut y avoir deux pieds ou un seul pied, on les appelle dans des siréniens monopodes ou bipodes, Mais c'est une anomalie qui n'est pas viable.
Alors, il y en a une. Il faut toujours qu'il y ait des exceptions. Il y a Milagros Cernon, qui est né au Pérou en 2005, qui a été opéré et qui survit quelques années.
Il faut voir ce que c'était exactement.
Bien sûr. Donc, on est devant, je dirais, ces malformations fortes. Alors, revenons un peu sur les jumeaux fusionnés, sur les siamois, qu'on voit dans le film. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que donc, et dans la réalité de quelques couples de siamois, c'est que, bon, ils sont accolés, donc on peut être accolé par pas mal de, par la tête, par les épaules, par le pubis, par différents endroits du corps. D'abord, premièrement, je voulais réfléchir, comment est-ce que ça arrive, ce genre de choses?
Alors, ce qu'on appelait les monstres doubles, tels que nous les connaissons, ils sont tous issus d'un seul œuf. C'est un œuf qui se divise, mais qui se divise d'une façon imparfaite. Ce qui fait que on a une variété de ce qu'on appelait des monstres doubles, qu'on appelle depuis justement Claire Fétéquet des jumeaux joints ou conjoints, pour pas les qualifier de monstres. La problématique pendant très très longtemps et jusqu'au début du 20e siècle, on peut dire, donc pas très loin du film de Frikes, on se posait la question, est-ce que des monstres doubles, ce sont deux œufs qui se collent l'un à l'autre, ou est-ce un œuf qui se divise en deux? Et c'est Spemann en particulier, il y en a d'autres qui l'avaient démontré, mais c'est Spemann qui a fait des très belles expériences, qui montre au début du XXe siècle que les deux choses sont possibles. Ça peut être deux œufs qui se collent et qui forment un monstre double, ou ça peut être un œuf qui se divise plus ou moins et qui forme également donc ces monstres doubles. Donc il y a les deux possibles. Chez l'homme, généralement, ce sont la division d'un œuf, mais il peut y avoir également l'accollement de deux œufs.
Alors c'est connu depuis l'Antiquité, hein, puisqu'on retrouve des statuettes à Ankara du 6e millénaire avant Jésus-Christ, qu'au musée San Marco à Florence, il y a un bas-relief avec la même chose. Et donc on est devant une réalité qu'on peut maintenant diagnostiquer avec l'échographie en cas de grossesse dite gémellaire, et puis donc tenter quelquefois une séparation, qui est toujours hypothétique, parce que ça dépend lesquels, bien entendu, mais qui peuvent être tentés pour permettre la survie parfois de l'un, parfois des deux.
Donc, on a eu à l'époque, Il y a eu des opérations qui ont été même filmées et diffusées après dans des foires. Hein. On a eu ces opérations. Il y a un célèbre médecin qui a fait ces opérations filmées. Il faut dire qu'à l'époque, quand on faisait ces opérations, la sepsie n'était pas de rigueur. Vous voyez les chirurgiens qui sont sans bonnet, sans gants, qui opèrent comme ça.
Oui. On faisait aussi des... Il y a des cires qui représentent des césariennes qui étaient montrées dans les foires aussi, les accouchements en cire. Et on peut dire que les mains qui sont là ne sont pas des mains stériles, ça c'est sûr et certain.
Vous avez aujourd'hui ces jumelles conjointes qui sont opérées. Il y a une équipe de 20 spécialistes qui sont là.
Mais oui, parce qu'il y a plusieurs organes qui peuvent être concernés. Donc on est, en fait, bon, ça ce sont les extrêmes, mais disons que la crainte de la malformation et de la monstruosité est vécue comme... non viable, soit plutôt comme handicapante et posant la question à la future maman, au futur papa, de savoir comment on va se dépatouiller avec ça. Alors c'est vrai que depuis l'échographie, une cinquantaine d'années, l'échographie donc qui maintenant il y en a trois, mais c'est quand même la préoccupation de la du futur des futurs parents, c'est de savoir est-ce qu'il va avoir une anomalie ou pas. Alors il y a des malformations qui sont minimes, du genre bec de lièvre, du genre un doigt surnuméraire, des choses comme ça, mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire la norme et l'anormalité, et comment intégrer ça dans le monde vivant humain et l'accepter de l'autre. Alors c'est très compliqué, je trouve, et particulièrement pour les obstétriciens, quand on voit ce film, on voit quand même des gens qui sont terriblement atteints et qui n'ont pas décidé de se supprimer.
Oui, et c'est tout le questionnement du film, c'est que le film montre à la fois que la vie dite normale est impossible quand même, parce que à cause du regard qui est posé sur eux, et qui, soit dit en passant, est un regard peut-être encore plus terrible que celui qu'on voit dans le film, parce qu'au moins dans le film, ils forment une sorte de communauté. Mais il y a une histoire au moment du tournage qui est assez terrible de Scott Fitzgerald, l'écrivain qui était à ce moment-là scénariste pour la MGM et qui se retrouve à la cantine avec les sœurs siamoises du film et qui se trouve mal, qui s'évanouit devant elles tellement il ne supporte pas cette vision. Et donc on imagine bien la difficulté à exister dans le monde en créant des réactions comme ça sur son passage aussi dramatique. Donc je trouve que le film, à la fois, c'est une sorte d'utopie parce qu'il présente quand même une possibilité de communauté, même si elle est peu satisfaisante, évidemment. C'est à la fois une utopie et en même temps un film qui montre la souffrance pour les gens concernés.
C'est vrai que dans l'histoire des jumeaux fusionnés, l'une va épouser un garçon, l'autre va épouser un autre garçon, donc on se demande concrètement comment ça se passe, surtout qu'elles
ont... Là aussi, les sous-entendus sont
très forts, parce que bon, elles peuvent pas se détacher, donc l'une va assister à l'autre, et vice-versa, et elles vont avoir des enfants.
On a ça, les fameux frères siamois, qui s'appelaient gauche et droite, se sont mariés et ont eu ensemble, je crois, une vingtaine d'enfants.
22,
c'est ça, oui, ou 21 ou 22, oui, donc il y avait la grande famille.
Oui, c'est effectivement c'est intéressant de ce que vous dites, Florence Colombani, sur le sous-entendu aussi. C'est-à-dire que c'est le résultat d'un acte sexuel, le développement humain, et quand il y a des anomalies, voilà, on se repose des questions peut-être autour de tout cela.
Juste un petit mot très rapidement sur l'hermaphrodite. Il y a des associations aujourd'hui qui demandent La reconnaissance
et qu'on n'opère pas systématiquement, voilà, oui, c'est tout un débat qu'on n'a pas pris là, mais effectivement de ne pas imposer un sexe à la naissance et de laisser, je veux dire, à l'intersexualité peut-être une place, je dirais, dans notre humanité. Puisque le temps passe, j'aimerais vous demander, à vous, surtout Jean-Louis Fischer, qu'est-ce qui se passe avec les musées d'anatomie, justement, de ce type de données médicales historiques qui sont en train d'être effacées, puisque le musée de l'assistance publique, le musée Orfila qui avait été créé en 1844, le musée Dupuytren qui avait été créé en 1835 et qui prennent toutes ces malformations pour les garder comme un témoignage, puisqu'aujourd'hui il y en a moins, et puis c'était un sujet d'étude pour essayer de comprendre les ratés de l'embryogenèse. Quel est votre j'ai bien lu que vous faisiez un cri d'alarme sur cette disparition.
Oui, il y avait j'avais monté une équipe que vous avez bien connue au CNRS où on étudiait toute l'embryogenèse depuis la fécondation jusqu'à la naissance, et les malformations bien sûr étaient dans nos études. Et nous nous sommes intéressés au musée, aux représentations de l'embryon, du fœtus. Et à Paris, il y avait des musées qui étaient des musées historiques, qui étaient intéressants pour l'éducation, l'histoire, et qui présentaient des pièces exceptionnelles. On avait un grand musée qui était peut-être le plus grand musée européen, qui se trouvait au Saint-Père, c'était le musée Orfila Rouvière d'Elmas, qui a été fermé en 2005, dont une partie des collections est partie au musée de Montpellier. Mais il y a tellement de choses, et il est resté en caisse pendant de très nombreuses années, donc il y a certainement des pièces qui ont été, plus ou moins, surtout les pièces en liquide, qui ont eu certainement des dommages. Donc c'est un des grands musées qui ferme en 2005. Ensuite, il y a le musée de l'assistance publique qui a été vendu. Il y a le musée du Puitrin, qui était ce petit musée 1835, qui était spécifique justement dans l'anatomie pathologique, qui était un musée exceptionnel avec des collections exceptionnelles. On l'a déménagé à Jussieu dans un sous-sol qui est plus ou moins inondable. Là, il y a toute une problématique à développer. On a un musée, celui de Testu de la Target de Lyon, qui a également fermé. Alors, comme Dupuytren, comme Lyon, on nous a dit que l'administration avait besoin de place. Alors, curieusement, quand l'administration a besoin de place, eh bien, c'est un musée qu'elle vise, et on vide le musée. Le musée Dupuytren a été déménagé en juillet 2016, et on commence seulement à faire des travaux pour faire une salle de travail pour les étudiants, avec cuisine, etc. Donc, est-ce que c'était nécessaire de vider ce
en
musée
fait,
exceptionnel?
Votre cri d'alarme par rapport aux scientifiques que vous êtes, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on ne crée pas, à l'instar de Londres, par exemple, qui a lui conservé, même développé, des musées d'anatomie de ce type, mais peut-être de les actualiser, de les rendre plus contemporains avec la muséographie contemporaine, mais un grand musée consacré à la santé et aux soins. Parce que c'est peut-être ce point-là, y compris sur la naissance, qui est... D'ailleurs, vous avez participé, et moi avec vous d'ailleurs, à une exposition au Havre sur 5000 ans d'histoire, l'embryon humain, 5000 ans d'histoire, qui reprenait avec Cédric Rémière, je dirais, qui avait été l'organisateur. Voilà, enfin, il y a des choses qui touchent l'histoire, la science, la médecine d'aujourd'hui, les interrogations éthiques d'aujourd'hui, les interrogations philosophiques, et je vous rejoins totalement dans le fait qu'il serait bon qu'on ait un lieu qui puisse rassembler une partie de ces collections, et en tout cas développer une muséographie contemporaine, peut-être en passant le film Freaks à ces réunions et d'autres, d'ailleurs, sur ce que c'est que la différence, que c'est que la normalité et l'anormalité, l'apostrophe et sans apostrophe. Donc voilà, c'est un appel autour de ce film à ce que se développe une attitude positive vis-à-vis des troubles de l'embryogenèse qui nous constituent visibles ou pas visibles, puisque c'est bien ça la chose. Voilà, vous avez compris que nous sommes tous les trois, je dirais Florence Colombani, Jean-Louis Fischer et moi-même, passionnés par ce film, Freaks, la monstrueuse parade, que nous avons essayé de disséquer, sans jeu de mots, mais pour vous faire comprendre l'intérêt à plusieurs niveaux de ce film et de la réflexion. Nous allons remercier Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Mélissa Fousse, qui sont les petits monstres de la radio, Dany Journaud, Justine Wild et Catherine Dereté qui nous accompagnent pour cette émission. Et demain, nous nous retrouverons autour du documentaire Histoire d'A de Charles Belmont et Marielle Issartel, qui sera présente avec nous, ainsi que Israël Nizan pour parler d'IVG, d'avortement, histoire et avenir de cette pratique médicale. franceculture.fr, site internet, c'est à vous.